Les dessous de l'Infox, Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Démêler le vrai du faux toutes les semaines sur RFI. Bienvenue à tous dans les dessous de l'Infox, avec au sommaire de ce vendredi 18 mars,
RFI.
Quatrième semaine de guerre en Ukraine et l'émergence de vidéos truquées. Volodymyr Zelensky en a été victime. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux fait dire au président ukrainien qu'il appelle son peuple à rendre les armes, ce qui est faux. Sophie Malibaud, Grégory Genévrier nous explique tout dans un instant. Une autre fausse information repérée par nos confrères de l'AFP Factuel sur la guerre en Ukraine, en Afrique, au Gabon. Le président Ali Bongo n'a pas menacé d'attaquer la Russie, comme le prétendait une infox. Nous serons avec Marin Lefebvre. Et puis, un témoignage comme un contre-pied à la désinformation, celui d'un journaliste reporter en terrain de guerre, Pierre Olivier, de retour de mission en Ukraine, est notre invité. Les Dessous de l'Infox, une émission réalisée par Guillaume Lebouvier. Les dessous de l'Infox, la chronique comme tous les vendredis soirs. Bonsoir Sophie Malibaud.
Bonsoir.
Bonsoir Grégory Genévrier.
Bonsoir.
La désinformation qui vient de franchir un nouveau cap cette semaine en Ukraine avec l'apparition de ce qu'on appelle une deepfake sur les réseaux sociaux. Autrement dit, des vidéos truquées particulièrement sophistiquées grâce à l'intelligence artificielle. Cette semaine, c'est le président ukrainien qui a été victime de ce procédé, Grégory.
Oui, dans cette vidéo, on voit Volodymyr Zelensky habillé de son traditionnel t-shirt kaki. Il se tient debout face caméra devant son pupitre dans la salle de presse de la présidence ukrainienne et on l'entend annoncer ce qu'il présente comme des décisions difficiles.
Любі українці, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже легко.
Le président Zelensky propose aux Ukrainiens de déposer les armes. « Je vous conseille de vivre et je vais faire de même », dit-il. Un discours de démobilisation en totale contradiction avec ses dernières déclarations.
Sauf qu'en réalité, le président Zelensky n'a jamais dit ça.
Eh bien non, c'est un deepfake, autrement dit une vidéo fabriquée à partir d'images réelles et modifiées par l'intelligence artificielle. Ce procédé informatique permet d'adapter le mouvement des lèvres à un discours inventé de A à Z. Le son comme l'image sont donc ici de pure fabrication. Début mars déjà, les services de renseignements ukrainiens avaient mis en garde contre ce type de menace.
Alors pour bien comprendre, Sophie, où cette vidéo est d'abord apparue ?
Alors, on a pu la voir sur le site de la chaîne de télévision Ukraine 24, site piraté ce mercredi. Et puis l'antenne a elle aussi été piratée. Lors d'une émission en direct, un bandeau factice a été diffusé selon lequel le président ukrainien demandait à son peuple d'arrêter de se battre. À peine une demi-heure plus tard, Volodymyr Zelensky, le vrai Zelensky, se filme lui-même pour démentir ce message qu'il qualifie de provocation puérile. Entre-temps, la vidéo a été relayée sur les réseaux. Twitter, Facebook et YouTube l'ont d'ailleurs rapidement supprimée de leur plateforme, mais elle continue de circuler notamment sur le réseau social russe VKontakte.
Sait-on quel impact cet infox a pu avoir ?
Eh bien, dans les faits, il ne semble pas que l'appel à baisser les armes a eu le moindre effet. On notera malgré tout le besoin qu'a ressenti le président Zelensky de publier un démenti. Le président ukrainien communique abondamment. C'est sa façon de galvaniser la population contre l'invasion russe. S'il avait été crédible, le message appelant à cesser le combat aurait pu avoir un effet désastreux. Plus tard, la vidéo truquée pourrait aussi instiller le doute sur les déclarations à venir de Zelensky. Le caractère nocif de cette désinformation, c'est qu'elle incite à douter d'absolument tout.
Cette opération de désinformation, Grégory, a suscité une riposte côté ukrainien.
Oui, quelques heures plus tard, un deepfake de Vladimir Poutine a circulé sur Twitter et Telegram. La vidéo montre le président russe annonçant soi-disant la fin de la guerre et la signature d'un accord de paix. Celui qui partage ce deepfake, c'est un activiste ukrainien, Seri Sternenko. Il vante un trucage de meilleure qualité que celui visant Volodymyr Zelensky. Au final, cela nous rappelle surtout que d'un côté comme de l'autre, les nouvelles technologies permettent de fabriquer ce type d'infox toujours plus sophistiqué.
Et enfin, Sophie, y a-t-il un moyen de s'en prémunir ?
Alors, il y a d'abord des indices qui permettent de réaliser qu'on est peut-être face à un deepfake. Le clignement des yeux, le ton de la voix, certaines incohérences aussi à l'image. Alors, à ce moment-là, on peut passer la vidéo au crible d'un outil informatique comme DeepWare, par exemple, capable d'évaluer si le document a été trafiqué. Il faut toujours prendre le temps de vérifier. Et surtout en temps de guerre.
Merci Sophie Malibaud, Grégory Genevrier pour la chronique des Dessous de l'Infox tous les vendredis sur RFI.
RFI à Libreville, 104 FM.
Dans les Dessous de l'Infox sur RFI, nous retrouvons maintenant Marin Lefebvre. Bonsoir Marin.
Bonsoir.
Journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. Aujourd'hui, Marin, vous avez décidé de revenir sur une capture d'écran qui a été trafiquée.
Oui, une image tirée d'une interview sur la chaîne de télévision France 24. Une des présentatrices de ce média, Elisabeth Alain, semble s'entretenir dans cette capture d'écran avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Dans la partie inférieure de cette capture, un bandeau rouge affirme que le chef d'État aurait pris la parole au sujet de l'invasion russe de l'Ukraine qui a débuté le 24 février. Ali Bongo aurait été jusqu'à déclarer même être prêt à attaquer la Russie, tout en majuscule dans ce bandeau, si elle ne se retirait pas du pays. Une rumeur qui a été partagée plus de 1000 fois en moins de 2 semaines.
Alors le président gabonais a-t-il pris la parole au sujet de cette guerre ?
Pas du tout. En réalité, France 24 nous a confirmé qu'aucun entretien avec le président gabonais n'avait été réalisé depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, ce qu'une rapide recherche sur la chaîne YouTube et le site de la chaîne nous a confirmé. De son côté, le gouvernement gabonais a qualifié auprès de l'AFP par la voix de son porte-parole cette rumeur de fake news.
Alors, quelle est l'origine de ces images ?
Eh bien, on les retrouve facilement avec une recherche d'images inversées sur le moteur de recherche Google. Il s'agit d'un montage réalisé à partir d'une capture d'écran d'une vidéo authentique publiée sur la chaîne YouTube de France 24 début janvier 2019. La présentatrice échangeait alors en réalité avec le porte-parole du gouvernement gabonais d'alors, Guy Bertrand Mapangu, au sujet de la tentative de coup d'État qui secouait à l'époque le pays. Plusieurs éléments permettent de confirmer qu'il s'agit bien d'une capture d'écran trafiquée. La présentatrice porte exactement la même tenue, arbore la même expression. Le bandeau indiquant Libreville Gabon ainsi que la carte du pays qui apparaissent à l'écran sont identiques. Et enfin, les téléspectateurs avertis pourront repérer d'autres incohérences. Les polices utilisées ne sont pas celles de France 24. La photo d'Ali Bongo apparaît déformée. Et les entretiens avec les chefs d'État en exercice à l'antenne ne se font habituellement pas par simple appel téléphonique.
Il s'agit donc là, à vous écouter, Marin Lefebvre, d'une manipulation. Mais Ali Bongo a-t-il pris position au sujet du conflit russo-ukrainien par ailleurs ?
Pas officiellement, en tout cas. Les comptes certifiés sur les réseaux sociaux du président gabonais ne font aucune mention de cette guerre. De même pour ceux de la présidence du pays. Néanmoins, le Gabon, qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le 1er janvier de cette année, a voté la résolution de l'ONU condamnant l'agression de la Russie commise contre l'Ukraine. Et ce, contrairement à plusieurs pays africains qui ont préféré l'abstention, comme la Centrafrique et le Mali, qui développent actuellement les liens avec la Russie.
Et enfin, le gouvernement gabonais a-t-il communiqué davantage sur ce sujet ?
Oui, le 23 février, soit la veille du début de l'invasion russe, le porte-parole du gouvernement, Jesse Ela Ekoga, s'était exprimé à ce sujet, comme l'a rapporté le média gabonais La Libreville. Le Gabon, avait-il dit, est particulièrement attaché à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale. Il avait également appelé les différents protagonistes au dialogue.
Vérification faite.
Merci Marin. Marin Lefebvre, journaliste pour le site de vérification de l'agence France Presse, à savoir l'AFP Factuel.
Les dessous de l'Infox sur RFI.
Jusqu'à la fin de la guerre, disent-elles, elles reviendront chaque jour pour cuisiner pour leurs soldats, de véritables héros ici en Ukraine que chaque habitant veut aider à sa façon. Pierre-Olivier Bertrand Éclair, Kiev, RFI.
Et nous sommes à présent en ligne avec Pierre-Olivier, bonsoir.
Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
Journaliste, reporter d'RFI, parti en zone de guerre pour couvrir l'actuel conflit meurtrier en Ukraine, accompagné de Bertrand Éclair. De retour de cette mission, après avoir passé 15 jours à sillonner l'Ukraine, vous êtes à présent en France, Pierre. Alors dites-nous tout d'abord, partir relater cette guerre, c'était une évidence ou pas pour vous ? Est-ce que vous vous sentiez investi d'une mission, à savoir nous informer ?
Bah alors forcément, quand on voit les événements qui se déroulent, on est parti quelques jours seulement après le début de la guerre, le 24 février. Et oui, comme je pense tout journaliste, particulièrement un journaliste d'une trentaine d'années, on a envie, quand on voit ce genre de choses qui se passent, qui se déroulent aux portes de l'Europe, forcément, on a un côté qui nous dit bon bah ce serait intéressant d'y aller, de pouvoir raconter ce qui s'y passe. Bien sûr, il y a aussi un peu d'appréhension. On sait que c'est un terrain qui va être difficile, dangereux même. On l'a vu avec des dizaines, des milliers de victimes, y compris d'ailleurs chez les journalistes. Donc on sait que voilà, le terrain va pas être facile. Après, une évidence, c'est toujours difficile d'appréhender ça comme une évidence. Mais en tout cas, quand j'ai vu ce qui se passait, oui, j'ai proposé à la rédaction en chef d'apporter mon aide, puisque effectivement c'est une guerre qui est colossale à couvrir. Il faut beaucoup de bras, beaucoup de renforts. Hein. On peut pas couvrir une guerre à une personne. Et donc quand j'ai vu les proportions que ça prenait, bah j'ai proposé effectivement de partir à la rédaction en chef. On en a parlé. Et puis, trois jours après mon coup de fil pour proposer de couvrir cette guerre, eh ben, j'étais sur place à la frontière polonaise.
Avec Bertrand Éclair pour les moyens techniques. Pierre, pour comprendre votre travail sur place, dites-nous comment vous organisiez au jour le jour vos journées de travail ?
Bah alors, il y a d'abord une phase de préparation, c'est-à-dire qu'on part pas sur une zone de guerre comme ça. Il y a toute une phase pendant 2-3 jours avant le départ où il faut trouver un fixeur. Un fixeur, ça veut dire quelqu'un qui, une fois sur place, connaît la région, connaît le pays, parle généralement la langue, en l'occurrence l'ukrainien, et qui va pouvoir nous mettre en relation avec des gens intéressants qui vont pouvoir nous présenter des initiatives qui sont en train de se passer, etc. Donc ça, déjà, ça prend un peu de temps. Et puis, une fois sur place, évidemment, il faut discuter de ce qu'on va faire, de ce qui est possible de faire, aussi bien avec le fameux fixeur, en l'occurrence, qui connaît le terrain, et puis aussi avec la rédaction, avec le technicien, donc Bertrand Éclair, qui était avec moi, puisqu'en fait, toutes ces décisions, étant donné le contexte et la situation autour de nous, ça n'a rien de normal, et donc la moindre décision, il faut la prendre en collaboration avec plusieurs personnes. Et alors après, les journées, elles se déroulent de l'organisation le matin, ou la veille au soir, on pense au sujet déjà du lendemain, à quelle heure est-ce qu'on va pouvoir proposer un direct, où est-ce qu'on sera pour faire vivre au maximum et de façon la plus concrète possible, voilà ce qui se passe, ce qu'on voit. Et puis il faut aussi ménager des temps de tournage, où là on va faire plutôt emmagasiner des réactions, des interviews, des témoignages. Alors au tout début on était à la frontière, on a passé la frontière, donc on a rencontré énormément de réfugiés, donc tout ça c'est pareil, il faut emmagasiner tout ça, après faire des reportages qu'on monte, qui seront diffusés pour la matinale. Et chaque journée est un peu comme ça, une succession en fait d'événements. Il faut gérer aussi en permanence avec Paris. On a des réunions de sécurité pour savoir où est-ce qu'on va aller, par quelle route, comment on va s'y rendre, avec quelle voiture, combien de temps ça va prendre, qu'est-ce qu'on va aller chercher sur place. Est-ce que le déplacement dans cette zone qui peut être un petit peu dangereuse vaut vraiment le coup par rapport à l'info qu'on va en retirer. Donc voilà, tout ça rythme un petit peu les journées. Et mine de rien, toutes les 3-4 heures, on fait des points réguliers avec Bertrand, qui était donc mon technicien, avec Paris, avec le fixeur, pour voir comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on planifie les heures qui viennent et les jours qui viennent.
En l'occurrence, vous êtes entré donc par l'ouest de l'Ukraine. Je citerai Lviv, Vassilkiv, Vinnytsia, Irpin, Kiev. Avez-vous pu travailler librement en Ukraine, Pierre-Olivier ?
Alors, on n'a pas ressenti de tension sur les points où on voulait aller tourner, par exemple avec des soldats ukrainiens. On sentait qu'ils n'avaient pas que ça à faire, entre guillemets, de voir des journalistes et de s'occuper d'eux, mais il n'y avait pas particulièrement de tension. Alors, il y avait des choses qu'il fallait pas faire, pas dire, par exemple, tout ce qui était l'endroit précis où on tournait avec certains régiments, et ça, on n'avait pas le droit de donner l'endroit exact. Pareil pour le matériel qu'ils avaient, pareil pour leur nom, leur prénom, leur grade. Il fallait, ou alors juste donner leur prénom, mais sinon, il fallait éviter de donner trop d'informations. On peut le comprendre. Après, il n'y avait pas de nom, il faut pas dire ça. On s'est pas senti frustré, en tout cas de la part de l'armée ukrainienne, qui nous disait il faut pas passer cette limite, parce que passer cette limite, nous on répond plus de rien, vous passez dans un territoire où il y a des Russes, et etc. Donc là, pour le coup, on n'y allait pas, on écoutait ce qu'ils nous disaient, mais c'était pas fait dans un but de nous priver d'une information. On avait plutôt l'impression que c'était fait pour éviter qu'on prenne trop de risques. Et bien sûr, le but du reportage et de cette mission n'était pas de rentrer blessé ou de mourir. Donc, on écoutait, mais c'était, encore une fois, on sentait pas que c'était fait pour nous cacher des choses ou pour nous dire n'allez pas là parce qu'on aimerait pas que vous voyiez certaines choses. C'était pas ça. C'était plus par rapport à notre sécurité.
Aucune tentative de manipulation ou de pression à votre égard.
Alors après, il y a des choses que nous, dont nous, on a eu conscience. Et là, pour le coup, non, j'ai pas eu l'impression qu'on ait voulu nous manipuler. Après, la manipulation parfois est un peu plus fine. On s'en rend pas forcément compte. Et c'est-à-dire qu'il y avait même des fixeurs. Donc ces personnes du coin qui nous montrent des choses. Alors évidemment, on leur donne un peu d'argent. Et puis en échange, ils nous montrent des endroits. Eux parfois nous disaient bon bah là, moi je préfère pas vous emmener. C'est risqué. Donc c'est pas vraiment de la manipulation, mais c'est plus par rapport à ce que eux pensaient pouvoir. Où est-ce qu'ils pensaient pouvoir nous emmener, jusqu'à quel point. Et à certains moments, on nous expliquait que voilà, là, on ne pouvait pas aller plus loin et que ce qui se passait de l'autre côté, même si on n'a pas pu directement en témoigner, on nous a raconté, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pu aller vérifier, parce que vérifier, c'est aussi prendre des risques et le but, c'est de faire pas prendre de risques ni au fixeur, ni à Bertrand, le technicien, ni à moi-même, enfin à toute l'équipe, quoi.
Pierre-Olivier Bertrand éclaire à l'entrée d'Irpin, RFI.
À un moment, avez-vous eu peur ou avez-vous senti que votre vie était peut-être en péril ?
C'est plus une tension un petit peu générale et permanente, c'est-à-dire que même le soir quand on était à Kiev à l'hôtel où on dormait, il y avait des sirènes, on entendait que voilà ça bombardait pas très loin dans la rue, dans la journée quand on sortait en voiture, il y avait certaines fois où les routes qu'on prenait, on sentait quelque chose d'un peu diffus mais qui était en permanence une espèce de tension qui fait qu'on était jamais vraiment, on pouvait jamais vraiment se relâcher en disant, y compris à l'hôtel ou à n'importe quel moment, on pouvait pas se dire bon là ça va, maintenant c'est safe, il y avait toujours quelque chose en nous qui nous disait il faut rester sur ses gardes, il faut faire attention. Et d'ailleurs on le faisait avec Bertrand et Claire et avec l'équipe, on faisait vraiment très attention à tout. Après en danger, ça nous est arrivé d'être dans un village au nord-ouest de Kiev, Irpin, où les combats, où quand on y était il y a quelques jours, étaient vraiment très violents. On entendait autour de nous des obus, des roquettes tomber à quelques centaines de mètres dans une explosion pas possible, qui voilà faisait vibrer des choses. Donc oui, on sent qu'on est clairement dans une zone où tout est fragile et y compris la vie.
On ne ressort pas indemne d'un tel travail.
Non, c'est sûr, il faut déjà repenser. En fait, c'est surtout la différence, je trouve, c'est que nous, on rencontre des gens, et par exemple, notre fixeur, qui lui était un jeune aussi, il avait une trentaine d'années, et lui devait rester en Ukraine. Il est artiste, il n'était pas du tout fait pour la guerre. En tout cas, il nous disait qu'il n'avait pas du tout envie de se battre, que c'était pas son truc. Lui, son truc, c'est de faire de l'art, de la photo, de la vidéo. Et à la fin, il nous a demandé s'il n'y avait pas un moyen que on puisse le faire rentrer avec nous en Europe, passer la frontière, parce que lui n'avait pas du tout envie de ça. Et en fait, c'est ça qui est un peu étrange, c'est que nous, on sait qu'on est projeté sur un terrain qui est difficile, mais que quelque part, on va retourner à un moment ou à un autre, c'est une question de temps, si tout se passe bien, on va retourner en Europe, on va retourner à Paris, on va retourner chez nous, on va reprendre la vie que l'on connaissait avant. C'est plus compliqué pour les personnes avec qui on a passé autant de temps pendant 2 semaines, qui était une personne qui était avec nous en permanence, et elle, on sait qu'on va la laisser, et c'est pareil pour les dizaines, les centaines de réfugiés à qui qu'on a vu, à qui on a parlé, et qui eux, pareil, nous disaient aidez-nous, mais voilà, le problème c'est que on peut pas aider outre mesure, et nous, on sait qu'on a fait quelque part le billet d'avion retour dans la poche, ce qui n'est pas le cas des gens à qui l'on parle, et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur quand on revient en France. Il y a d'un côté de se dire bon ça y est je suis revenu, c'est bien, mais repenser après à toutes ces personnes qu'on a croisées et qui elles restent sur place et n'ont pas d'autre choix, c'est ça qui est aussi difficile, et il faut prendre du temps pour appréhender ça.
Merci Pierre-Olivier, journaliste reporter pour Radio France Internationale. Vous avez sûrement entendu ces sujets avec Bertrand et Claire dans nos différentes éditions. Merci Pierre pour ce témoignage sur notre antenne.
Merci beaucoup à vous, Adrien. Merci.
À bientôt. Ainsi se referme pour cette semaine les Dessous de l'Infox, une émission à retrouver quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés, où que vous soyez sur la planète. À la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau numéro des Dessous de l'Infox.
L'atelier.